voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Nejma Bouakra rencontre Françoise Vergès. Ce soir, essaimer une politique du vivant.
Françoise Vergès, vous êtes un témoin averti de la circulation des mondes, des consciences diasporiques, des entrelacements culturels, tout d'abord par votre propre trajectoire, de la Réunion à la France, aux États-Unis. Vous êtes donc réunionnaise et une chercheuse en itinérance. Vous traversez les frontières et recomposez les collisions douloureuses, oubliées, mais vous réveillez aussi les rencontres inattendues, révélez les transmissions de résistance d'un continent à un autre. Aujourd'hui, vous interrogez la fabrique des êtres jetables. Vous reliez ce processus à l'histoire moderne de la traite négrière. La condition même d'être jetable s'actualise aujourd'hui au détour de la Méditerranée, des déserts et des frontières, où viennent se rompre des vies qui ne comptent pas. Bonsoir, Françoise Vergès.
Bonsoir.
Vous allez dans les écoles, vous faites le récit d'histoires violentes, comme celui de la traite ou de l'esclavage. Comment parler de cette histoire sans l'édulcorer? Comment en parler sans en faire un lecteur trop lourd?
Alors, ça dépend déjà de l'âge. Quand je me suis adressée à des enfants maternels, et puis après des enfants primaires, ou secondaires, au collège, donc c'est pas la même chose déjà. Je parle pas des enfants de 5 ans comme on parle des enfants de 14 ans. Donc ça dépend là où je vais. Mais d'abord, toujours très important, d'abord j'adore les questions qu'ils posent, parce que c'est... Ça me fait penser à comment raconter cette histoire, justement. Je me souviens d'une fois d'avoir été dans des classes, des petites classes. Alors là, ça devait être 9 ans. Et pratiquement beaucoup d'enfants venus de plein de coins du monde. Et une des questions qui revenait beaucoup, c'était pourquoi les Noirs? Pourquoi ce sont les Noirs qui ont été esclaves? Et il y avait beaucoup d'enfants noirs dans la classe. Et donc, il fallait que je réponde... à la fois pour qui donne l'histoire de pourquoi, mais sans que ces enfants se sentent porteurs nécessairement, enfin, de ce fardeau, de cette histoire, ou totalement identifiés à cette histoire, parce qu'ils étaient noirs. Et donc, c'est chaque fois de dire ce qui s'est passé et de leur permettre d'en faire quelque chose pour eux ou pour elles qui ne soit pas, justement, écrasant. Mais c'est aussi pour moi de faire le lien beaucoup avec leur vie quotidienne, de comment ça se passe. Donc, je me souviens, par exemple, pour des petits-enfants de maternelle, c'était partir de leur demander, mais comment, est-ce qu'il y a des choses dans leur vie qui les attristent parce qu'on leur dit des choses, et donc de les laisser parler là-dessus. Et en fait, c'était pas nécessairement parce que ils étaient de telle ou telle couleur, mais ça pouvait être dire oui, moi, on veut pas jouer avec moi parce qu'on dit que je porte des lunettes et que je suis trop grosse, tout ça. C'était partir de leur perception de l'exclusion, d'une forme de discrimination, et de partir de là pour ensuite aller plus loin, plutôt que de leur imposer une histoire, voilà, comment ça s'est passé. Et puis aussi, je trouve, si vous voulez, que donner simplement des faits, des dates, c'est l'école, hein. Alors l'école, ils l'ont déjà, alors si c'est pour que j'arrive et pour que je leur donne tout ça, c'est comment rendre vivant, oui, comment rendre vivant cette histoire. Comment aussi dire que c'était des êtres humains, que... Le système les faisait esclaves, mais que c'était des personnes qui continuaient à avoir faim, à tomber amoureux, à être en colère, à être triste, à chanter, à pratiquer des rituels pour la naissance, pour la mort, qui avaient une culture. C'était pas parce que on les avait mis en esclavage que c'était des personnes sans culture et sans langue et sans pensée.
Qui n'étaient plus rien.
Ils n'étaient plus rien. Mmh. Elles et ils sont restés des êtres humains, et c'est pour ça que c'est assez debout, comme dit Aimé Césaire. Et quand je le dis ça, c'est pas pour amoindrir ce qui s'est passé, mais au contraire pour dire la force et le courage que ces personnes ont eu, l'incroyable force et courage, et que le monde entier a hérité de ce que ces personnes ont inventé. Quand on pense à la musique, mais tous les États-Unis, toute l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud et les Caraïbes, nous n'aurions pas toutes les musiques qui nous ont été données, toutes les musiques sur lesquelles nous dansons. Nous ne les aurions pas. Alors, ce n'est pas pour dire, heureusement qu'il y a eu l'esclavage, c'est pour dire que, justement, malgré cela, ça fait partie de la résistance.
Vous écrivez, je ne veux ni idéaliser les trajectoires, ne faire récit que d'histoires héroïques, de héros, et je ne veux pas non plus laisser uniquement des traces de traumatisme, c'est-à-dire associer les esclaves ou les descendants d'esclaves à des personnes qui auraient finalement, qui seraient rivées à la pathologie?
Je me méfie autant de l'idéalisation que de la victimisation. Je pense que l'idéalisation ne nous sert pas. Parce que pour moi, je le disais, mais peu m'importe que la personne soit bonne, elle peut être absolument méchante. C'est pas pour autant que ça justifie qu'on la mette en esclavage. Donc on ne doit pas attendre, si vous voulez, des personnes opprimées qu'elles soient gentilles et bonnes. C'est pas ça la question. Ça ne justifie en aucun cas leur exploitation et leur oppression. Donc cette association tout le temps où il faudrait que la victime soit bonne et que c'est ça qui permettrait justement de dénoncer, je trouve que c'est un très grand danger. On le voit même parfois, vous savez, avec les crimes policiers, de chercher que le jeune, bah, il peut-être, il faisait quand même du commerce de shit, hein, tout ça, hein, puis je sais pas, il avait voulu un scooter. Non mais attendez, peut-être, mais ça ne justifie en rien qu'on le tue. Donc il faut, parce que dans la logique de l'idéalisation et la logique de la victimisation, il y a quand même une tendance à faire qu'il y ait un bourreau total, une personne totalement bourreau, et une personne totalement innocente. Et à partir de ce moment-là, ça peut arriver, hein, bon, quand même. Mais c'est quand même assez rare. Et du coup, vous confondez la morale et l'histoire. Enfin, la morale, le moralisme, hein, c'est pas la morale, moi, je trouve, mais c'est une espèce de position moralisante. Et donc, ça permet aussi à beaucoup de gens de ne pas se sentir concernés. Parce que les méchants, 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 il y en a quand même pas, c'est pas... Je veux dire, il y en a, mais enfin... je veux dire, tous les jours, on ne rencontre pas dans la rue, c'est pas des méchants méchants qu'on rencontre, mais c'est peut-être des personnes tout à fait racistes, ou lâches, qui ne diraient rien. Mais il faut distinguer victimisation et victime. Il y a des victimes. Il y a des victimes terribles, parce que je pense que le pouvoir peut briser des vies. Je veux dire, l'État peut briser des vies. Briser psychiquement et physiquement aussi. Et qu'il ne faut pas du tout sous-estimer. Sous-estimer la manière avec laquelle des gens sont brisés. Et que c'est un crime pour moi. À mes yeux, c'est un crime.
Vous qui avez travaillé sur des archives qui parlent de choses extrêmement violentes, d'une violence extrême, comment pouvoir transmettre à la fois cette histoire-là sans leur promettre un avenir aussi redoutable, celui d'être éternellement les damnés de la Terre, sans leur dire qu'ils sont rivés à des histoires qui vont drainer des pathologies très lourdes?
Mais de parler en même temps de personnes qui n'ont pas accepté, que c'est quand même extraordinaire que, à la première minute où les Européens veulent emmener des Africains en captivité, il y a des révoltes. Ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'autant vous faites l'histoire de l'oppression, vous pourriez parler de l'histoire des révoltes. C'est constant. Sous l'esclavage, c'est constant. Sous le colonialisme, c'est constant. Les gens n'acceptent pas. Moi, ce qui me frappe, c'est que justement, l'idée de liberté, d'égalité ne s'éteigne jamais. Jamais. Dans les situations les pires des dictatures, les pires des régimes, il y a toujours des personnes, je trouve ça extraordinaire, moi je trouve ça formidable, c'est ça qu'il faut transmettre. Il y a une longue liste de personnes, mais de petits gestes, d'une femme qui ouvre sa porte à des réfugiés, d'une autre femme qui ouvrait sa porte aux esclaves qui marronnaient, d'un homme qui imprimait les tracts anti-nazis, du plus petit geste au plus grand geste, ça n'a jamais arrêté. Donc, c'est justement de raconter ces histoires dans cet incroyable, constant élan. C'est, au contraire, c'est la vie. Je veux dire, face à ces récits de mort, il y a des récits de vie très forts, qui sont, pour moi, quand même extraordinaires. Parce qu'il y a des moments, quand même, les gens sont seuls, hein. Les gens sont seuls. Et quand les esclaves se révoltent et veulent la liberté, n'oublions pas que c'est dans une société où, que ce soit l'Église, la justice, l'État, la culture, soutiennent l'esclavage. C'est-à-dire dans un monde où la pensée dominante, on regarde tout, les images, tout ce qui vous entoure, vous dites que l'esclavage, c'est aussi naturel que le jour et la nuit. Et donc, c'est naturel. Et que vous, vous dites non, ce n'est pas comme le jour et la nuit, parce que ce sont des hommes qui le font, donc ça peut changer. Il n'y a pas de raison. C'est pas naturel. Et je pense que c'est ça, c'est de dénaturaliser ces choses-là, quand je les raconte, quand on les raconte. Peut-être qu'on insiste trop sur les héros, les histoires d'héroïsme, et qu'on ne parle pas d'un héroïsme beaucoup plus quotidien. Parce que c'est aussi souvent une histoire masculine, donc d'hommes qui brandissent des fusils, tout ça. Moi, je suis tout à fait, je les admire, hein, je respecte beaucoup. Mais aussi, c'est l'histoire des femmes qui tiennent les choses debout, qui font qu'il y a à manger tous les jours. Donc, c'est plutôt de sortir de ces récits, de cette manière peut-être de penser l'histoire en défaite et en victoire. Parce que c'est un vocabulaire assez militaire aussi.
Vous êtes une grande lectrice de France Fanon, je crois. Oui. Oui. Sur la question de ces subjectivités qui ont justement été malmenées, qui ont été faites objet d'autres, c'est une question qui concerne et qui a concerné les esclaves, mais est-ce que ce ne sont pas des questions qui peuvent aujourd'hui se reposer sous différents termes dans le monde contemporain ?
Bien sûr, tout ce qu'on renvoie de négatif aujourd'hui à des jeunes qui ne seraient pas conformes à une norme, la norme de l'entrepreneur qui a plein de succès, qui est un gagnant-gagnant, avec tout ce vocabulaire, bien sûr, c'est absolument sans parler du racisme absolument quotidien et du sexisme constant. Et ce qu'on voit, c'est que c'est une lutte constante, c'est que ce qui a été gagné dans les années 70 est en train de régresser. Moi, je parle souvent des esclaves parce que, évidemment, pour beaucoup de gens, c'est le passé, mais je pense que c'est une histoire qui continue à nous apprendre beaucoup de choses. Quand Fanon examine ce que c'est que le monde colonial post-esclavagiste, il leur montre aussi l'incroyable brutalité et des dimensions destructives du psychisme, pas seulement du pays, mais dans Peau noire, masque blanc ou dans le chapitre sur les maladies mentales dans Les damnés de la terre, sans parler de ses articles sur le syndrome nord-africain qu'il écrit très tôt, en 51, sur le fait que les médecins ne prennent pas au sérieux les travailleurs immigrés nord-africains quand les travailleurs viennent leur parler de leurs symptômes, de là où ils ont mal, et que le médecin leur dit « mais non, c'est pas vrai », et qu'on voit encore se reproduire aujourd'hui, puisque des femmes noires témoignent que dans les hôpitaux, on fera beaucoup moins attention à leur douleur, parce que l'idée, c'est que les Africains, ils tiennent mieux la douleur que les Blancs. Les Noirs tiennent... Donc, ça continue, ça se perpétue, toutes ces choses, même dans la vie quotidienne pour des tas de personnes, dans les hôpitaux, dans les écoles, partout. Donc oui, bien sûr, c'est absolument contemporain.
Vous avez eu le désir de rencontrer Aimé Césaire. Vous l'aviez peut-être croisé déjà, plus jeune, enfant ?
Enfant, oui, c'était quelqu'un qui a très bien connu mon grand-père, puisque tous les deux étaient députés dans l'Assemblée constituante et que Césaire avait été le rapporteur de la loi de départementalisation.
Pourquoi avoir ce désir-là de publier un livre d'entretien avec ce grand homme ?
Parce que j'entendais beaucoup dire que Césaire était mort. Et quand je parlais de Césaire, on en parlait comme de quelqu'un du passé. Et on parlait beaucoup plus de Fanon que de Césaire. Et alors, il y avait ces deux choses. D'une part, de penser que Césaire était mort. Enfin, ou alors, s'il n'était pas mort, c'était tout comme. Et la deuxième chose, c'est que il comptait très peu, puisque quand même, c'était Fanon. Et moi, je veux dire, d'abord, il écrit avant Fanon, et quand on relit Discours sur le colonialisme, ou Cahier d'un retour au pays natal, ou certaines de ses pièces, comme Le roi Christophe, ou Une saison au Congo, je trouve que c'est loin d'être un petit pépé, hein. C'est quand même quelqu'un d'incroyablement fort, avec une force, et puis très radicale. Donc, pour ces deux choses, je me suis dit, mais c'est pas possible, il n'y avait pas de livre publié sur lui depuis des années. Depuis des années, il n'y avait plus rien qui avait été publié sur lui. Ses textes étaient toujours publiés par Présence africaine, mais bon, on le lisait beaucoup moins. Et j'ai voulu quand même, moi, ramener Césaire, enfin, redire aux Français, mais vous savez, il y a quelqu'un. Et donc, je lui ai envoyé une lettre en disant, vous vous souvenez peut-être pas de moi, mais vous vous souvenez de mon grand-père et de mon père, que vous avez très bien connu, tout ça. Et voilà, je voudrais faire des entretiens avec vous. Mon éditeur avait dit d'accord, tout ça. Et moi, j'attends, tu sais, puis en fait, une semaine plus tard, je reçois un coup de fil et une dame me parle avec une dame martiniquaise et elle me dit, mais Monsieur Césaire se demande où vous êtes. Alors moi, je dis, mais j'apparais, pourquoi ? Il dit, mais parce que vous lui avez envoyé cette lettre, il pensait que vous alliez venir. Alors je dis, mais moi, j'attendais sa réponse. Il dit, mais non, mais lui, il vous attend. Il vous attend et il trouve que vous devez venir très très vite parce qu'il est très âgé, il ne sait pas combien de temps ça va encore durer, donc vous devriez être déjà là. J'ai adoré, d'accord, etc. Donc j'ai pris un billet d'avion pratiquement le lendemain et je suis allée le voir. Et donc je lui ai expliqué pourquoi je voulais faire ces entretiens. Et je suis restée donc à peu près une dizaine de jours.
Vous rencontrez Aimé Césaire et là il vous emmène près d'un fromager. Un fromager, c'est un arbre.
Oui, un immense arbre, qui est un très bel arbre, hein, qui est un très 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 bel arbre. Et immense, il est près de la ville de Saint-Pierre. Et alors on s'arrête près de ce fromager. Bon, moi j'aime les arbres, donc évidemment j'admire l'arbre, mais enfin bon. Et il me raconte l'histoire. En fait, quand il y a eu l'éruption qui a détruit la ville de Saint-Pierre, évidemment...
L'éruption volcanique.
Oui, l'éruption volcanique, évidemment, bon, plein de choses ont été détruites autour des arbres. Et cet arbre avait été calciné. Et il est resté calciné pendant des années. Donc il y avait son cadavre, on peut dire son tronc. Et il a repris vie. Des bourgeons ont recommencé, les branches ont repoussé, et l'arbre est redevenu immense et magnifique. Et pour Césaire, il adorait venir, il me disait, sous ce fromager. On était un peu au-dessus, on voyait la mer, la ville était un peu à droite, et il aimait venir méditer. Et je trouvais que c'était une très belle image pour cette analogie de source de vie constante qui, malgré la destruction, va renaître. Alors c'est un peu, évidemment, on pourrait dire mystique, mais qui, pour moi, est ce germe du vivant qui s'oppose à la politique de la mort.
Vous marchez ensemble ?
Alors c'était souvent l'après-midi, ou le matin ou l'après-midi, parce qu'il se fatiguait assez rapidement. Donc je lui parlais, et surtout j'enregistrais ce qu'il racontait. Et puis, il me parlait un peu de sa ville et il a voulu me montrer son île. Donc, il connaît tout quoi, sur son île. Il pouvait me citer le nom de n'importe quel arbre. On est allé dans les montagnes, on est allé à Soufrière parce qu'il aimait ça. C'était des paysages qu'il a beaucoup aimés, à la ville de Saint-Pierre. Et il me prenait la main pour me montrer. Enfin, moi, j'étais absolument dans un ravissement parce que je trouvais d'abord c'était un petit homme extrêmement élégant, mais d'une grande élégance, pas seulement vestimentaire, mais d'une grande élégance d'âme, et un grand érudit, un grand connaisseur de la littérature, et puis un grand politique. Et je suis revenue, j'ai fait ça le plus rapidement possible. J'étais très contente d'avoir fait ce livre, parce qu'il a été très bien reçu, et moi je l'avais écrit aussi pour que tout le monde puisse le lire. C'est-à-dire que ce ne soit pas un livre universitaire, comme on dit, sur Césaire, mais vraiment que sa voix, qu'on entende sa voix. J'étais très contente d'avoir fait ça.
Pour vous, c'est aussi un précurseur, c'est-à-dire que c'est un précurseur, mais c'est aussi un visionnaire. C'est-à-dire que vous considérez que son regard, par exemple, sur la question noire, sur la négritude, ce regard est toujours pertinent. Black consciousness, mais without ethnicity. C'est-à-dire être noir, mais... sans que ce soit ethnique, c'est une question importante.
Oui, c'était, je le trouvais très intéressant dans son analyse, très politique d'ailleurs, il le disait, ma négritude n'est pas une cathédrale, pour lui c'était pas quelque chose de sacré, c'était une expérience de vie, et un sentiment d'exister lié à une manière d'exister, une manière d'être. Il raconte qu'une fois... dans la rue à Paris, quand il était jeune, on lui avait dit « sale nègre », il s'était retourné, il a dit « le nègre t'emmerde ». Bon, et j'avais trouvé cette phrase assez... parce que alors, vous l'aviez vu, on n'avait pas du tout l'impression qu'une phrase pareille pourrait sortir de sa bouche. Et en même temps, je trouvais que c'était formidable, parce qu'il retournait là, cette parole qui est une insulte, et, en disant « moi je suis un nègre et je t'emmerde ». Et en prenant cette formule très, très populaire, en fait, cette insulte très populaire, mais en la retournant. Parce que pour lui... il le disait, évidemment, on vient d'Afrique, mais on nous a jetés, mes ancêtres ont été jetés sur cette île, et moi, je suis née là. Et en même temps, ce que j'aimais beaucoup chez lui, c'est qu'il n'avait aucune illusion, si vous voulez, il n'avait pas d'idéalisation, justement, de son peuple, qu'il aimait, mais profondément. Il aimait la Martinique, il aimait le peuple martiniquais, mais profondément. Mais en même temps...
Je crois qu'il y a une poésie de lui que vous aimez beaucoup, non ? Ceux qui n'ont inventé ni la poudre, ni la boussole.
Mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre. Et qui résume pour moi effectivement cette question de quelles sont les vies qui comptent. Un peu, si vous voulez, je trouve ça une très belle phrase. C'était aussi quelqu'un qui s'intéressait vraiment à l'émancipation, au monde, à la question de l'émancipation pour les peuples qui ont été opprimés et colonisés. et qu'il était toujours, il voyait l'Afrique comme étant toujours dépendante de l'Occident, et cela le travaillait. C'est aussi sa critique de la petite bourgeoisie martiniquaise était quand même très tranchante. Il avait vu ça aussi à Haïti, quand il était à Haïti, et qu'il avait trouvé que mais vraiment il y avait une bourgeoisie haïtienne qui continuait à écraser le peuple. Donc il n'était pas du tout dans à la fois pas du tout dans l'idéalisation et en même temps extrêmement radical. Et je trouve ces deux choses très bien.
Et vous pourriez justement nous parler de cette conscience noire qui fait que justement on peut être noir tout en étant très différent d'un autre noir, qu'il y a différentes manières d'être noir, de différentes histoires de peuples noirs.
Quand Césaire dit être noir pour lui, c'est être fidèle à un héritage, à une histoire, je pense que c'est ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est-à-dire c'est l'héritage de lutte et l'histoire des luttes pour ne plus être des nègres, pour être des êtres humains comme d'autres. Je dirais que le racisme vient de la communauté qui est raciste et non pas de la personne qui est subie, donc c'est la communauté raciste qui doit se défaire de cela. Mais ce n'est pas aux noirs qui ont été construits comme nègres de se défaire du fait d'être noirs. Ils le sont et ils vont l'être. Mais c'est la communauté qui les voit comme telles et qui les qualifie, qui les stigmatise comme telles, qui doit, elle, se poser la question de son racisme. Et aussi le fait que pour lui, les noirs sont étant des êtres humains, contribuant à des constructions sociales, peuvent se tromper, peuvent en opprimer d'autres, ou peuvent être formidables, je veux dire comme voilà.
Mais on n'est pas du côté de l'identité, du primat de l'identité.
Non, ces questions de l'identité identitaire, je comprends pourquoi elles sont importantes pour des tas de personnes, mais je pense qu'elles ont été transformées. Il y a une telle insistance là-dessus que ça peut être un piège. Ça peut être un piège. Parce que l'identité, finalement, vous savez, vous pouvez l'avoir, ça ne changera pas tellement l'inégalité. Les formes d'inégalité ou d'exploitation ne vont pas nécessairement changer parce que telle ou telle identité.
Mais c'est une question qui revient de manière assez récurrente, cette question-là, de pouvoir réparer des identités blessées.
Et pour moi, il y a plusieurs niveaux, si vous voulez. Parfois, quand j'entends parler d'identité, je comprends, si vous voulez, c'est de sortir justement d'une injonction ou d'histoire mutilée, de vouloir avoir que cette histoire soit valorisée, soit reconnue, soit écrite, que nos histoires ne doivent pas être constamment écrites par d'autres. Donc ça, je comprends, mais c'est plutôt que quand toute lutte d'émancipation est réduite à une lutte identitaire, il me semble que c'est une erreur. Parce que ce n'est pas l'identité qui va changer le système économique. Je veux dire, le système économique ne repose pas sur la question des identités, essentiellement. Le système économique capitaliste repose sur la construction, évidemment, de communautés qui sont racialisées et ajoutées, jetables. Mais c'est pas l'identité qui fait ça, si vous voulez. C'était en fait cette construction, ça se déplace, ça se reconfigure constamment.
Alors si l'on parle justement des êtres jetables, quelles seraient pour vous aujourd'hui, Françoise Vergès, les conditions d'une vie, d'une politique qui permettrait justement d'établir une politique du vivant ?
Tout est là pour faire qu'on soit constamment dans le manque. Si vous voulez, cette économie... si vous aviez ça, vous seriez heureux. Un grand écran plan, je sais pas quoi, enfin plein de choses, quoi. C'est les objets qui vous rendraient heureux. Mais d'abord, on voit bien que dans les études qu'on montre, le nombre de gens qui ne sont pas très heureux, qui sont déprimés, est quand même très élevé. Donc malgré l'accumulation d'objets, ça a été aussi de dire aux pays qui étaient dits non développés, le jour où vous aurez tout ça, vous serez développés, vous serez heureux. Résultat, en général, destruction de l'environnement, écrasement des gens, exploitation des gens. On voit bien que, si je voulais, aujourd'hui, on arrive à un moment où toutes les conséquences négatives de cette économie s'accumulent, avec les changements climatiques, l'épuisement des ressources, mais avec l'idée qu'il y aura toujours une solution technologique. On construira des planètes artificielles. Enfin, mais c'est, si vous voulez, cette course... et que contredisent des philosophies qu'on peut dire les philosophies amérindiennes, mais aussi des philosophies d'Europe. Je veux dire, il y a toujours eu des discussions sur qu'est-ce que c'est que de bien vivre.
Qu'est-ce que de vivable aussi.
Oui, qu'est-ce qui est vivable. Tout être humain, on a vraiment besoin pour vivre de respirer. Je veux dire, si on ne respire plus, ben, c'est qu'on est mort. Or, l'air devient irrespirable, à tous les sens du terme. Le vivant, c'est un entremêlement. L'être humain n'est pas tout seul. Pour pouvoir vivre, mais pour que son habitat soit habitable, ça n'est pas que lui. Enfin, l'être humain a besoin de mille autres choses. Parce que la planète, elle va poursuivre son... elle fera ce qu'elle aura à faire. Hein. Mais si vous voulez, pour moi, repenser le vivant, c'est repenser l'économie dans laquelle on vit. Mais l'économie, pas simplement l'économie financière, mais l'économie de ce qu'on pense être une bonne vie, une vie heureuse. Quand je dis heureuse, je ne parle pas d'une espèce de plénitude constante, hein, parce que, mais qu'on vit comme on peut vivre. Les Malgaches, ils ont une conception du temps que je trouve très, très intéressante. Pour eux, le passé est devant vous, parce que vous le connaissez. Donc vous savez ce qui est arrivé, vous le voyez. Le futur est derrière vous, parce que vous ne savez pas ce qui va arriver. Et donc vous vivez autrement. Vous ne vivez pas dans ce temps linéaire où vous allez... Hein, il y a de l'inattendu, et donc vous, le passé étant devant vous, vous essayez d'arranger les choses pour que ce qui va arriver ne soit pas quand même trop terrible, vous voyez. Et je trouve ça intéressant, justement, ça, de penser à d'autres manières de penser le temps, de penser l'espace, de penser le vivant, et qui peuvent nous aider à changer, à transformer nos visions.
Et cette jeune génération à laquelle vous vous adressez souvent lors de vos conférences, mais aussi lors de manifestations artistiques, et puis en vous déplaçant beaucoup dans différents quartiers, en France, mais aussi à La Réunion, et puis sur d'autres territoires, qu'est-ce que vous leur dites à cette jeune génération qui se sent peut-être prise un peu en étau, qui se demande si finalement les êtres jetables, les prochains, eh bien, est-ce que ce ne seront pas eux ?
Moi, d'abord, je veux les écouter, parce que sinon, je pense que ça fait quand même... la vieille mémé, là, qui vient donner des leçons. Mais, si vous voulez, moi, si j'ai quelque chose à leur dire, c'est que ça a toujours été comme ça. Les formes peuvent changer, les formes de résistance comme les formes d'oppression peuvent changer. Si vous voulez, la formule, qui est une formule qu'on retrouve dans des Negro Spirituals ou le blues, mais aussi dans des chants d'Afrique du Sud ou ailleurs, c'est-à-dire le long chemin vers la liberté, ce sentiment du long chemin, qui donc nous signale une autre temporalité, qu'il y aura un moment, on y arrivera et tout sera formidable. On vivra dans un temps paradisiaque. Mais plutôt ce sentiment du long chemin dans lequel on accomplit des choses, on avance et puis voilà, on lègue des choses, on lègue des mémoires, on lègue des références, des chants, des poèmes, des tas de choses qui sont formidables. Et donc on contribue à cela. Je pense que c'est... C'est ça que je leur dis, si vous voulez. Et que aussi d'oser rêver. Il y a une grande critique de l'utopie aujourd'hui, parce que l'utopie, c'est pas bien. Et puis, il y a cette fameuse phrase de Thatcher, il n'y a pas d'alternative. C'est comme ça. Il faut s'y habituer. Et de dire non. De nouveau, dire non. De marronner, au sens d'avoir de nouvelles formes de marronnage. Et de dire oui, il y a des alternatives. Et qu'on peut rêver. Pour revenir à Fanon, quand Fanon dit... chaque génération doit trouver sa mission, la trahir ou l'accomplir. Il faut trouver celle qui va être et ne pas se dire, ben voilà, oui, mais ceux qui sont venus avant, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Mais nous, que faisons-nous ? Puisque nous sommes là, en ce moment, dans ce temps, que faisons-nous ?
Merci, Françoise Vergès.
Merci.
Fin de cette rencontre de Nejma Bouakra avec Françoise Vergès. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Hélène Langlois, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.